le journal régional de Radio JM. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 12 janvier, bienvenue dans votre journal régional, il est 13h. Magali Barthès reçoit aujourd'hui le danseur et chorégraphe Michel Kelemenis. Avec sa troupe Kelemenis et compagnie, il nous propose un nouveau spectacle intitulé Magnifique, dont la première aura lieu ce vendredi au Grand Théâtre de Provence. Et puis retrouvez la docteure Sophie Tardieu, référente santé publique à la Maison des Femmes Marseille-Provence, ouverte en janvier 2022. Il s'agit d'un lieu d'écoute, de soins et d'orientation pour les femmes victimes de violences.
Bien commencer l'année rime aussi avec plaisir culturel. Avec le spectacle magnifique, vous serez peut-être séduit par l'énergie et la grâce de 9 danseurs interprétant les chorégraphies de Michel Kelemenis, qui, après avoir collaboré avec de nombreux ballets nationaux, dont celui de l'Opéra de Paris, est désormais directeur artistique de la maison de danse marseillaise CLAP. Bonjour et bonne année à vous.
Merci beaucoup, bonne année.
Beaucoup de Marseillais ignorent sans doute qu'avec CLAP, le quartier de Saint-Mauron est l'hôte d'une résidence d'artistes.
C'est un lieu, en effet, où c'est un grand complexe qui se déploie sur 2000 m² avec 3 salles de travail qui ont des capacités, disons, d'accueil très différentes et très complémentaires, et où nous avons l'habitude de recevoir environ 60 équipes artistiques annuellement, ma compagnie n'étant qu'une de celles-là, certes motrice, mais c'en est une parmi tant d'autres.
En 2019, pour le spectacle Coup de grâce, vous aviez exploré la gestuelle de l'effroi après l'actualité tragique des attentats. Quel a été le cheminement créatif pour Magnifique ?
Donc des attentats de Paris, je précise, de 2015, où il y avait eu cette connexion un peu funeste entre un soir de création, nous avions un spectacle en création au Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence, et c'est le soir des attentats de Paris. Et donc c'est cette espèce d'ambivalence de sentiments, d'un travail bien réussi et du bonheur d'une première achevée et bien accueillie, avec soudain l'information de cet éclat de l'histoire sur Sandrine qui a tué 130 personnes. Et de ceci, j'ai effectivement fait le spectacle Coup de grâce en 2019, qui tentait sinon de démêler, mais en tout cas de mettre en scène cette situation un peu indémêlable de ce sentiment double entre bonheur et effroi. Et Magnifique s'inscrit en quelque sorte en écho de cette pièce-là. Coup de grâce est évidemment une pièce un peu sombre. Et j'ai eu, avec la traversée Covid, le besoin, sans doute comme d'autres, de parler de lumière, de parler d'énergie, de jeunesse, de vitalité, de déploiement, d'éclosion, quelque chose qui ne veut être que positif.
On y trouve en effet toute la fougue de la jeunesse. Cette liberté décomplexée des danseuses et danseurs qui se plaisent à égratigner les codes sociaux est-elle une révolution dans l'univers de la danse ?
Non, pas du tout. C'est de manière absolument historique. La danse, les danseurs, les danseuses ont toujours été très, très libres dans leurs relations et leur tolérance vis-à-vis de la diversité des corps, la diversité des choix de vie. Donc là-dessus, nous ne sommes que dans un rapport peut-être un tout petit peu anti et plus libre et plus facile peut-être, plus à même de s'amuser des codes pour aider la société à être plus en fluidité.
En effet, l'imagination des artistes ne semble pas avoir de limites. On voit bien que la jeunesse tient une place centrale dans ce spectacle. Pour vous, c'est même l'occasion de lui dédier un hymne. En quoi est-elle une source d'inspiration pour un chorégraphe ?
C'est pas tant la jeunesse, si on prend le terme de la jeunesse, c'est comme si on pensait aux jeunes d'aujourd'hui. Et c'est en fait, ma pièce parle plutôt de l'état de jeunesse, c'est-à-dire de ce moment où la vie est à l'endroit d'un bourgeon qui est en train d'éclore. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est en train de poindre, et c'est une énergie qui, parce qu'elle est en cours d'éclosion, ne peut pas s'interroger sur sa finitude. C'est-à-dire que pour moi, cette jeunesse est en train de baigner dans une notion d'immortalité et d'éternité, parce qu'on ne peut pas avoir l'idée au moment où on est en plein déploiement de soi, où son corps se déploie, on ne peut pas être dans l'idée que ça va finir un jour. Et c'est donc cette idée-là d'un état de jeunesse qui est d'un côté une énergie primordiale, initiale, et de notre côté, cette énergie, il faut petit à petit qu'elle cherche à s'identifier, à se définir dans un champ communautaire, mais aussi par soi-même. Et c'est ça, en réalité, le sujet de ma pièce. C'est comment être soi-même dans un élan commun, dans une communauté, dans une société.
Belle réflexion, en effet. Vous avez évolué auprès de Dominique Bagoué, danseur et chorégraphe, grande figure de la danse contemporaine et de la nouvelle danse française. Vous avez dû vous impliquer personnellement dans l'interprétation de ces chorégraphies. Chaque danseur est influencé par sa propre histoire, son environnement qui impulse sa créativité. Comment êtes-vous parvenu à cette nécessaire émancipation ?
J'étais encore chez Dominique et c'est de manière assez claire que je me suis senti en quelque sorte maillon à l'intérieur d'une chaîne qui était la chaîne Bagoué. Et pour pouvoir, moi, me déployer, il était nécessaire, effectivement, que je quitte Dominique. Ceci s'est passé en très, très grande entente et nous sommes restés amis jusqu'au terme, jusqu'à sa disparition, il y a 30 ans maintenant. Et cette émancipation, j'ai juste ressenti que j'avais, moi, besoin d'un déploiement personnel. Après avoir fait déjà quelques pièces, notamment au sein du Centre chorégraphique de Montpellier, en étant danseur de Bagoué, je faisais moi-même mes pièces, et Dominique m'a laissé de la place pour ça. Il était clair que pour pouvoir, moi, créer ma propre identité, il était nécessaire que je quitte sa compagnie d'alors. Et je reste aujourd'hui très, très... très, très amoureux de cette danse-là et sans forcément avoir besoin de m'y référer, et ce n'est pas le cas dans mes pièces, sans avoir ce besoin-là, le souvenir de cette aventure-là reste primordial, essentiel pour moi.
Je comprends très bien. Le danseur est à l'image d'un musicien dans un orchestre. Révélé par son originalité, il doit pour autant s'effacer pour ne faire qu'un avec le groupe. Est-ce le défi du chorégraphe d'associer au mieux les différents talents à l'image d'un chef d'orchestre ?
Le sujet de cette pièce est effectivement un rassemblement d'artistes qui sont dans la tranche d'âge assez écartés les uns des autres. Ça va de 20 jusqu'à 38 ans, avec des expériences et des rapports, des cultures professionnelles ou des cultures corporelles, des imaginaires corporels qui sont très très différents les uns des autres. Et c'était justement l'enjeu pour moi pour rendre hommage à ce métier extraordinaire qui est celui de danser, je me suis dit que cette diversité m'était nécessaire. Et donc, effectivement, le projet aura été essentiellement de les faire d'abord se rencontrer, puisqu'ils ne se connaissaient pas, de les faire s'apprécier et voir s'aimer à être ensemble. Et l'idée, c'est presque que je prendrais une image qui est l'image d'une mosaïque. Donc, il faut des particules qui sont des particules insolubles les unes aux autres pour arriver à fabriquer l'image mosaïque. J'ai donc besoin, moi, qu'il soit chacun singulier dans une œuvre qui soit une œuvre chorale.
Vous parlez d'univers différents, est-ce des formations différentes, des écoles différentes, ou alors ils viennent de pays différents ?
Il y a juste une des personnes qui n'est pas française d'origine, elle est italienne, sinon ils sont tous français, mais ils ont des cultures initiales en formation, qui sont ballet, qui sont jazz, qui sont contemporains, et évidemment des âges différents, 20 ans d'écart. Dans la construction imaginaire des corps, c'est gigantesque. C'est un métier jeuniste, où effectivement, c'est un métier qui passe vite. On a une vingtaine d'années, disons, de déploiement peut-être, et certainement moins pour être dans un sommet. Et donc, ça veut dire que sur cette échelle-là, de 2 fois 10 ans, il y a des marques de construction, d'imaginaire, de désir et de référence qui sont très, très différents. Et c'est super intéressant.
C'est ce qui fait toute la richesse de cette troupe.
En tout cas, moi, je le vis comme une très, très grande richesse.
Alors, avec le musicien Angelos Liaros Coppola, l'accent est mis sur le temps partagé de la scène et du public. Est-ce le propre des compositeurs et des chorégraphes d'aujourd'hui ?
La musique d'Angelos Liaros Coppola, c'est une musique de type électro. Donc, c'est un individu qui est grec d'origine, mais qui travaille sur la scène berlinoise de la musique électro. Donc, c'est quelqu'un d'un peu dark, un peu sombre, et qui est vraiment dans cette énergie musicale qui répond beaucoup plus à un aujourd'hui que la musique de Jean-Sébastien Bach, puisque dans ma pièce, il y a le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, et qui est alterné à certains moments de cette autre musique. Bach, évidemment, va représenter une espèce de substrat donc d'origine. C'est un passé pour dire que nous venons tous de quelque chose. Ça pourrait être autre chose, mais j'ai choisi cette musique-là parce qu'elle m'a beaucoup parlé quand j'étais moi-même de l'âge dont je parle, donc jeune, ce que je suis moi aujourd'hui. Et la musique d'Angelos Liaros Coppola vient, en quelque sorte, apporter un aujourd'hui ou peut-être une marche vers demain qui me semblait nécessaire dans le propos de la pièce.
Le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, c'est un écho au titre de la pièce, Magnifique.
Évidemment. Le point de départ de Magnifique, c'est la traversée du Covid. J'ai pas envie de m'y attarder, mais quoi qu'il en soit, le seul bonheur que j'y ai vraiment ressenti, c'était les moments que je partageais avec les danseurs. Incidemment, un jour, dans mes playlists, est revenu le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, qui a été une des toutes premières œuvres savantes que j'ai écoutées en boucle lorsque j'étais jeune. Mon origine, moi, m'a amené plutôt sur la musique de variété, Radio Monte Carlo, bon, voilà, c'est comme ça. Et dans vraiment musique de variété à l'ancienne, d'une certaine manière. Et avec la danse, j'ai été amené à écouter d'autres choses, dont les musiques baroques, dont les musiques chorales, la musique classique, les musiques plus savantes. Et cette musique-là avait un écho sur moi qui était cette idée d'être au matin, ouvrir la fenêtre, sentir un air frais qui vient sur soi, entendre un chant d'oiseau, et d'un coup, c'est le sentiment, bien sûr, d'une journée qui commence et d'une belle journée qui commence, mais peut-être, vu d'aujourd'hui, celui d'une belle vie qui commence. Et c'est pour ça que rapprocher le bonheur d'être avec les danseurs du bonheur de réentendre cette musique, je l'ai considéré comme une intuition. Et je me suis appuyé là-dessus pour rassembler ces 9 danseurs et tenter ensemble une grande œuvre chorale qui soit positive.
C'est si Jomli m'en dit.
Ah, merci.
Vous associez dans ce spectacle la densité électro d'Angelos. Angelos, j'ai mal prononcé le nom.
Il est grec, Angelos.
Angelos Liaros Coppola et les volutes baroques de Jean-Sébastien Bach. Genres musicaux bien différents, à l'image de l'architecture récente qui a trouvé aisément sa place au milieu des ensembles architecturaux des siècles passés. N'avez-vous pas peur de désarçonner les puristes ?
Non, j'ai aucune. Enfin, être puriste me semblerait être un obstacle à la vie d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, et dans n'importe quel champ, être puriste n'a pas de sens. Que veut dire la pureté ? Et donc l'intérêt aujourd'hui, si on veut dire noir, il faut qu'à un moment où il y ait un petit bout de blanc pour que tout ceci devienne noir, sinon rien n'a lieu. Et donc pour moi, cette alternance est absolument salutaire et elle permet de s'adresser à un public quand même très très élargi. Rester uniquement sur de la musique qui est une musique chorale, religieuse, d'essence baroque, ça me semblerait aujourd'hui enfermer complètement mon propos et sur ce type de musique-là, très très rapidement, je pourrais être perçu avec mon langage gestuel comme un chorégraphe classique ou néoclassique, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc pour moi, c'est très très important que d'alterner et d'amener un dialogue entre cet hier magnifique sur lequel nous nous sommes construits et cet aujourd'hui qui est d'une puissance totalement autrement définie, mais nécessaire pour évoquer la jeunesse.
En tout cas, le mélange des deux genres mérite que l'on s'y intéresse. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview qui donnera peut-être envie aux auditeurs d'assister au spectacle. Je mentionne le site de la Maison pour la danse, quelemenis.fr.
C'est ça, et juste mon titre, c'est Magnifique au pluriel, parce que c'est un hommage aux danseurs, et ce que je peux dire, c'est que mes 9 danseurs et danseuses le sont, ils méritent leur titre, ils sont magnifiques.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci, à très bientôt.
La Maison des Femmes, unité de soins pour les victimes de violences conjugales, sollicite votre générosité pour la rénovation de ses locaux rue Saint-Pierre, en vue d'une installation en novembre 2023. Nous recevons aujourd'hui la docteur Sophie Tardieu pour nous en parler. Bonjour Sophie et belle année à vous.
Bonjour et bonne année à vous également.
Les missions de la Maison des Femmes sont diverses. Tout d'abord répondre à l'urgence et d'ailleurs l'accueil se fait avec ou sans rendez-vous.
Alors l'accueil à la Maison des Femmes est tout d'abord un accueil inconditionnel. Ça veut dire que toutes les femmes peuvent venir se faire prendre en charge à la Maison des femmes qui ont des droits ou qui n'ont pas de droits sociaux ouverts. La Maison des Femmes accueille les femmes en semaine. Nous sommes avant tout une unité de soins, comme vous l'avez dit, un service de consultation qui accueille ces femmes du lundi au vendredi de 9h à 16h30 avec ou sans rendez-vous.
Et donc, comme vous le dites, les horaires proposés ne permettent pas, faute de moyens, de recevoir les victimes le week-end et pas au-delà de 16h30 en semaine. En parallèle, les violences conjugales ont quasi doublé depuis 2016. Comment parvenez-vous à répondre efficacement à chacune des demandes de ces femmes en souffrance ?
Alors, sur les horaires que nous avons cités, nous les prenons en charge directement à la Maison des Femmes. Sur les horaires de week-end et de nuit, bien sûr, on a un protocole de prise en charge avec les urgences gynéco-obstétricales de la conception et également avec les services d'urgence somatique où les femmes peuvent se rendre la nuit après 16h30 et elles sont ensuite réadressées à la Maison des Femmes sur les horaires que nous avons cité de 9h à 16h30.
Il y a aussi un volet prévention concernant les infections sexuellement transmissibles.
Oui, alors à la Maison des Femmes, on est organisé selon 4 parcours, donc 3 parcours de soins, où là on prend en charge les femmes victimes de violences, c'est le premier parcours. Un deuxième parcours qui concerne plus spécifiquement les femmes victimes de mutilations sexuelles féminines. Et un troisième parcours qui concerne les femmes enceintes en situation de violence. Le quatrième parcours, comme vous le disiez, est un parcours prévention, éducation à la santé sexuelle et affective. Et dans le cadre de ce parcours, nous menons des actions à la fois au sein de nos locaux, mais aussi hors les murs, auprès des populations, alors de la population générale, mais également des populations jeunes, des populations à risque. Aujourd'hui, on sait que l'éducation, la prévention est vraiment le vecteur de diminution de ces violences. Et c'est là-dessus que nous travaillons pour essayer de sensibiliser ces populations jeunes et à risque.
Alors, l'aide proposée s'illustre aussi sur le long terme avec la mise en place d'activités collectives.
Oui, bien sûr, puisque le modèle de la Maison des Femmes, c'est une prise en charge globale, une prise en charge médicale, une prise en charge psychique, une prise en charge sociale et juridique, mais également, comme vous le dites, des activités, et notamment des activités qui permettent à ces femmes de retrouver une certaine estime de soi. C'est vrai qu'elles arrivent à la Maison des Femmes victimes de violences, souvent en ayant perdu toute estime de soi. Donc nous mettons en place, au-delà du soin qui est notre cœur de métier, des activités telles que des activités sportives. Nous travaillons avec une association qui s'appelle Fight for Dignity, qui met en place des ateliers karaté au profit de ces femmes. Elles viennent régulièrement, hebdomadairement, se faire prendre en charge, mais également bénéficier de ces cours de karaté. Nous devrions ouvrir très prochainement également des ateliers socio-esthétiques en partenariat avec L'Oréal pour faire bénéficier à ces femmes d'ateliers leur permettant de retrouver cette estime de soi souvent perdue.
L'accompagnement social est en effet tout aussi important, il ne faut pas l'oublier. Alors toutes ces actions en faveur des femmes ne pourraient être menées sans les financements que vous avez d'ailleurs reçus. Mais ce n'est pas assez et vous espérez récolter 30 000 euros. Pour l'instant, vous en êtes à 24 000 et faites appel aux particuliers et entreprises.
Oui, alors au mois de décembre, nous avons lancé une collecte soutenue par notre marraine, Clara Luciani. Donc notre objectif initial était vraiment de recueillir 30 000 euros. Aujourd'hui, alors on a un peu augmenté la somme puisque ce matin, on était à près de 26 000 euros récoltés. Cet appel aux dons, en fait, il a pour objectif, vous l'avez dit, de réaliser des travaux dans nos nouveaux locaux qu'on va investir en novembre 2023. Donc aujourd'hui, avec 26 000 euros, on peut déjà créer un espace enfant qui permettra aux enfants d'être accueillis pendant que leurs mamans sont prises en charge à la Maison des Femmes. On va pouvoir également aménager un espace, une consultation gynécologique, mais il nous manque encore 4 000 euros qui là nous permettraient d'aménager une consultation échographique dans ces nouveaux locaux de la Maison des Femmes. Donc nous faisons vraiment appel à la générosité. Chaque don compte, chaque don peut être défiscalisé. On fait appel à cette générosité générale.
Oui, et donc en effet, grâce à la Maison des Femmes, les femmes souffrant de pathologies se sentiront beaucoup plus libres de se confier à des praticiens dédiés. Jusqu'à combien de femmes l'établissement pourra-t-il accueillir ?
Alors, Pour vous donner une idée, sur l'année 2022, qui a été notre première année d'activité, nous avons accueilli 380 femmes. On a une file active de 380 femmes qui sont prises en charge, qui sont rentrées dans des parcours de soins à la Maison des Femmes. Et notre objectif pour 2023, lorsque nous aurons déménagé, c'est d'accueillir en moyenne 30 à 50 femmes par jour, aussi bien sur des activités de soins que sur des activités collectives, que sur des groupes de parole, que sur des ateliers au sein de la Maison des Femmes. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de ces nouveaux locaux pour accueillir au mieux, de manière la plus accueillante possible, de manière la plus sécurisante possible, ces femmes dans ces locaux.
Cela donne en effet beaucoup d'espoir pour ces femmes et pour leurs familles. Alors, les femmes victimes de violences n'habitant pas Marseille n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer. Peut-on espérer que des antennes de la Maison des Femmes voient le jour dans la région sud dans les prochaines années ?
Alors oui, aujourd'hui, la Maison des Femmes Marseille-Provence a un périmètre régional qui nous a été donné par l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, on travaille déjà, on a une mission d'animation territoriale avec d'autres hôpitaux, d'autres structures qui accueillent déjà les femmes victimes de violences. Et oui, à terme, l'idée, c'est de créer de nouvelles maisons des femmes au sein de la région. Aujourd'hui, la Maison des Femmes est un label qui est donné par le collectif Restart. Le collectif Restart, c'est un collectif qui regroupe l'ensemble des maisons des femmes en France et également à l'étranger, puisqu'il y a une Maison des Femmes à Bruxelles et il y a une autre Maison des Femmes en cours de développement à Mexico. Donc l'idée, oui, c'est de développer des maisons des femmes un petit peu partout sur le territoire.
Un grand merci Sophie Tardieu pour cette interview d'utilité publique. On ne peut qu'espérer que ce type d'établissement se multiplie dans de nombreuses villes de France.
Je vous remercie et oui, je le redis, chaque don compte pour cette collecte.
Je mentionne le lien pour celles et ceux qui souhaitent contribuer à aider la Maison des Femmes. LOASO, la Maison des Femmes Marseille-Provence, la collecte du cœur.
La sortie de la rédaction.
Je vous propose de vous rendre ce soir à l'Opéra de Marseille, dans le 1er arrondissement, pour le concert de l'Orchestre Philharmonique de Marseille à l'occasion du concert de la nouvelle année 2023. Le compositeur Jacques Offenbach sera mis à l'honneur sous la direction de Laurence Foster. Le prix d'entrée est de 12 euros et plus de détails sur le site opéra.marseille.fr. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dès demain 9h pour la grande émission de Shabbat présentée par Patrick Zic. En attendant, vous pourrez retrouver ce podcast et d'autres sur le site internet de la radio, radiojm.fr. Et pour se quitter, je vous propose de démarrer l'après-midi sur un air de Jacques Offenbach qui est très célèbre, le Cancan, qui a fait son apparition en 1868. Passez une très belle journée sur Radio JM.